Seigneur, mets ta main pour le partage qu'on va avoir de ta parole, puis les belles petites, les beaux versets qu'on va aller chercher à droite et à gauche pour pouvoir se nourrir spirituellement, pour avoir une méditation de ta parole qui nous donne un encouragement ou ça nous donne des, de nous renouvelle spirituellement. C'est comme une nourriture qu'on vient chercher, Seigneur. Fait que je remets ça entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La petite exhortation que je vois, on fait ce soir, c'est encore une continuité sur l'étude sur le Saint-Esprit. Puis la partie qu'on voit ce soir, c'est les emblèmes du Saint-Esprit. Quand je parle des emblèmes, c'est comme si dans plusieurs passages, Jésus ou les autres, les apôtres, ont représenté le Saint-Esprit comme quelque chose ou comme un objet, puis ça avait un sens spirituel, une valeur spirituelle. Chaque fois que Jésus donnait comme une parabole qui parlait du Saint-Esprit, qui prenait une image de quelque chose, c'est dans le but, dans cette image-là, qu'on aille chercher les révélations qu'il a voulu nous faire passer dans cela. Il y a un message en arrière de ça. Comme, mettons, le Saint-Esprit, il est comparé à de l'eau. Dans sa première méditation qu'on va voir ce soir, puis il y a quelques... J'ai pas tout pris tous les exemples qu'il y avait dans la Bible des différentes choses par lesquelles il est représenté, mais les seules qu'on va voir, ils ont quand même un sens qu'on peut aller chercher pour nous dire « Ah, ça nous donnera de l'avantage ». Il faut comprendre que le Saint-Esprit, à cause qu'il est représenté de telle sorte de mots, comme de l'eau, mais là, je peux aller chercher « Ah, mais l'eau, ça fait ci, l'eau, ça fait ça, l'eau, ça peut faire ça ». Fait que ça te donne des idées. C'est ça que qui est le but, pourquoi que Jésus parlait en parabole. Puis quand il prenait un emblème pour donner un exemple sur le Saint-Esprit, mais il voulait nous donner une révélation. C'est ce qui est le point. Il faut trouver les révélations que Dieu nous donne. Comme le premier point, j'ai dit, c'est de l'eau. Puis dans Jean 4, 14, ça nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est beau. On voit que dans ce passage-là, le Saint-Esprit est représenté comme étant de l'eau. Qu'est-ce que ça fait de l'eau? Quelles sont les propriétés de l'eau? Qu'est-ce que ça apporte à l'humain de l'eau? Hein?
Ça désaltère.
Ça désaltère.
Ça étanche la soif.
Ça étanche la soif. On peut se laver par de l'eau. Ça nous purifie. Ça peut arroser pour parce que ça, sans eau, il n'y a pas de vie. Hein. Sans eau, il n'y a
pas de vie. Parce qu'il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, il ne porterait pas de fruits.
Puis même pire que ça, ils mourraient. Les plantes, s'il n'y a pas d'eau, ils meurent. Les humains avec, si on n'aurait pas d'eau, on meurt. Ça nous rafraîchit de l'eau aussi quand il fait chaud, ça fait du bien d'aller sauter dans la piscine ou quoi que ce soit.
Même si on sort tout ça.
C'est nécessaire à la vie, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut pas vivre sans eau. S'il n'y aura pas d'eau sur la planète Terre, il n'y aura pas aucune vie. Parce que toute la base de la vie est basée à propos des propriétés de l'eau. On a eu besoin d'eau pour développer la vie. C'est Dieu qui a mis ça, que le système soit comme ça. Notre corps, il y a 80% d'eau, mais on a besoin d'eau. Si on se déshydrate, puis on manque d'eau, on meurt. Mais là, dans ce passage-là, Jésus est en train de nous dire que celui qui va boire de l'eau que Jésus va donner... Jésus avait l'intention de nous donner l'eau, mais pas l'eau humaine. L'eau surnaturelle, puis ça représente quoi? Le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, ça va y faire les mêmes propriétés que l'eau naturelle à notre corps ou à la vie. Ça nous assure d'être maintenant en vie, ça nous rafraîchit, ça nous nettoie, ça nous fait du bien. On a besoin d'eau, c'est rafraîchissant. Un autre passage... qui dans Jean 7, 38, 39, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais ça, en parenthèse, il n'était pas encore, c'est qu'il n'était pas encore distribué avec plénitude à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là, parce qu'il agissait, il y avait déjà des gens remplis du Saint-Esprit avant même que Jésus soit là. Jean-Baptiste a rempli du Saint-Esprit de Sainte sa mère, Siméon était dans le temple, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit était là, mais pas répandu selon la promesse. On va le voir la semaine prochaine, ça, que le Saint-Esprit t'a promis dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages qui parlent d'une effusion de l'Esprit, puis des œuvres de l'Esprit. Mais là, aujourd'hui, on se concentre sur l'eau. Il n'était pas encore répandu, le Saint-Esprit, de la façon que Dieu voulait le faire, avec puissance, pour plein de monde, tous ceux qui seraient appelés pourraient le recevoir, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois un enfant, un vieillard, peu importe de qui ce que tu es, la promesse a été faite, mais ce qu'on voit d'extraordinaire là-dedans, c'est que là, on ne parle pas juste d'un eau qui n'aura pas soif, puis qui va devenir une source, là, on dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Pour ceux qui vivent proche dans le Québec, on a un beau fleuve dans le Québec, c'est le fleuve Saint-Laurent. Puis tu regardes, il y a une différence entre une rivière et un fleuve. Les rivières coulent vers le fleuve, mais un fleuve, c'est encore plus gros qu'une rivière. C'est plus puissant qu'une rivière. Ça pousse, tu peux faire des barrages hydroélectriques avec ça. C'est puissant, la puissance d'un fleuve. Il y a un passage qu'on a vu même l'autre jour, il dit quand même l'ennemi se lèverait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'idée, c'est qu'un fleuve, c'est puissant. Puis il parle que le Saint-Esprit va être comme des fleuves d'eau vive qui vont couler de son sein. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, parce que tu crois en Jésus-Christ, c'est le seul moyen de le recevoir. Si tu crois pas en Jésus-Christ, tu peux pas le recevoir. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas le recevoir. Puis quand tu l'as, en premier, c'est un eau désaltérante. Tu te sens rafraîchi, tu te sens béni d'être dans la présence de Dieu. Tu te sens en paix, dans la joie, mais tu te fortifies dans le Seigneur. Puis là, ça commence à jaillir comme une source. Puis ça devient comme un fleuve. Tu deviens inébranlable dans la foi. Puis Dieu peut faire des choses à travers de ta vie à cause de ça. Le Saint-Esprit, dans cet exemple-là, il est représenté à de l'eau, avec toutes les bénédictions que l'eau peut apporter. Un autre passage nous parle du Saint-Esprit sur une autre sorte d'emblème que le Saint-Esprit est représenté, le feu. Dans Actes 2, 3, C'est de cette façon-là que Dieu a permis que le Saint-Esprit soit vu visuellement dans ce passage-là comme des langues de feu. Des langues, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est notre langue. Bon, mais là, c'était comme des grosses langues en feu. Ça s'est posé sur chacun de ceux qui étaient là dans à la Pentecôte, dans la chambre haute. Ça nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Tout le monde, la Bible parle qu'il était à environ 120 qui se réunissaient à la réunion de prière. Puis là, ça priait dans quel but?
L'attente du Saint-Esprit,
parce que Jésus leur avait dit, sortez pas de Jérusalem tant que vous ne serez pas revêtus de la puissance d'en haut. Donc, il était en prière, puis ça priait. Puis selon, si tu calcules le nombre de temps que ça a pris, Jésus est mort, il a apparu pendant 40 jours à ses disciples. Puis quand il y a eu l'ascension, là, la Pentecôte était 50 jours après, ça veut dire qu'ils ont prié pendant 10 jours pour obtenir la puissance du Saint-Esprit. Puis quand ça s'est manifesté, mais la manifestation que ça s'est produit, c'est une langue de feu. Qu'est-ce que ça représente, le feu?
Ça veut dire que tous ceux qui étaient présents, ils l'ont vu, ça.
Oui, il leur a apparu. C'est quelque chose d'une vision que tout le monde a vue. C'était comme une manifestation puissante de la présence de l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que le feu a comme propriété?
Là, la lumière, nous, à cette heure, c'est l'électricité.
Mais le feu, ça l'éclaire. Le feu, c'est une lumière. Autant que ça peut attirer du feu, ça l'attire. Quand tu regardes un feu, on regarde ça, puis on est attiré à regarder ça. Puis il y en a d'autres, ça les repousse. Il y a certains animaux, à cause du feu, ils ne s'approcheront pas.
Ça nous rend brûlant aussi, donc le Seigneur, il dit, soyez bouillant pour le Seigneur.
Oui, le feu, c'est une énergie qui t'enflamme, qui te fait bouillir, qui te réchauffe, qui te fait du bien, parce que quand t'as froid, t'es content d'avoir du feu. Fait que le feu, dans ce sens-là, le Saint-Esprit, il est comme, premièrement aussi, comme la manifestation de la gloire de Dieu. Quand que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il voyait à la nuit une colonne de feu. Ça, c'était la présence de l'ange puissant qui était au-devant du peuple, qui était là pour pouvoir... Mais ça représente aussi Dieu. Puis le Saint-Esprit, il se fait représenter dans les actes comme étant une langue de feu. Le feu, il voulait dire aussi le jugement. Quand il parle du feu, la géhenne de feu, les temps de feu, ça représente le jugement. Mais autant aussi que Dieu a dit qu'il détruirait la terre, qu'il ne détruirait plus par l'eau, ça c'est l'alliance. Il a promis que quand ça son retour, ça va être par le feu que ça va être détruit.
Le feu purifie aussi.
Le feu purifie. Le feu, ça représente de la puissance. Le feu éclaire, réchauffe. Fait qu'il y a bien des belles propriétés que le feu est, mais le Saint-Esprit est cela.
Il dit l'or et l'argent ont été purifiés par le feu.
Oui.
Fait que nous autres, on a été purifiés par le Saint-Esprit parce que tout ce qu'il y a de méchant en nous, le Saint-Esprit,
il fait sortir. Oui. Le Saint-Esprit nous libère puis nous transforme. Il dit qu'il sert des épreuves, mais c'est lui qui le fait en nous. Qui permet que l'épreuve arrive, puis qu'il nous amène à confesser. Si on a des choses, on prie à Dieu, puis on demande à Dieu, puis on intercède, puis on voit la main de Dieu agir. Fait que tout ce travail-là, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à dépendre de Dieu.
Tout ce que notre besoin, le manque de foi, le manque de connaissance, le manque de révélation, faut tout demander à Dieu.
Oui. Oui. Puis encore un autre verset pour parler du feu. Dans Matthieu 3, 11, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Là, il parlait de Jésus-Christ. Et je suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il nous dit que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, il va nous... Il va faire qu'on reçoive le Saint-Esprit, pas juste le recevoir en dedans. En dedans, oui, tu vas le recevoir parce qu'il va être en toi comme une source d'eau vive, comme un fleuve, puis tu n'auras plus jamais soif, mais tu vas le recevoir aussi comme revêtu du feu. Revêtu de l'Esprit et du feu. C'est que chaque croyant, pour comprendre une chose là-dedans, on est revêtu quand on demande le baptême du Saint-Esprit puis qu'on le reçoit là. On est revêtu du Saint-Esprit puis on est revêtu de feu. Il y a un verset qui dit dans la parole, dans le Nouveau Testament, il dit, il fait de ses serviteurs des vents et non, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. On est des flammes de feu. Moi, vous me voyez pas en feu présentement. On voit pas le feu invisible, mais dans le monde invisible, nous sommes environnés du feu de Dieu. C'est le revêtement de puissance que Dieu donne aux croyants. C'est Dieu qui dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Nous sommes baptisés du feu. Nous sommes revêtus de ce feu-là qui est une puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit, mais on a aussi reçu sa puissance. On n'a pas juste reçu le Saint-Esprit pour être sans puissance, sinon ça servirait à quoi? C'est que le Saint-Esprit veut nous rendre puissants, mais il faut savoir que c'est là, puis il faut le demander. Si on la sent pas, cette vie-là de l'Esprit, puis qu'on sent pas qu'on est en feu, il faut le demander au Seigneur, parce qu'on a besoin d'être renouvelé.
C'est ta puissance qu'on veut,
parce que
tu nous donnes dans ta parole, dans les psaumes.
Oui. Oui, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. C'est ce que ça dit dans la parole. Un autre exemple qu'on voit, un autre emblème qu'on voit pour représenter le Saint-Esprit, le vent, le souffle. Jean 3, 8, Jésus est en train de parler de la nouvelle naissance. Puis il expliquait qu'il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Puis si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu le vois, puis tu rentres. Puis il faut que tu naisses de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut que tu aies déjeuné de l'eau. Il faut que tu naisses de l'esprit.
Ouais.
Quand tu as reçu l'esprit, mais là, tu es une nouvelle créature. Excusez. Quand tu as reçu l'esprit, là, l'esprit de Dieu t'alimente. Puis là, tu es entré dans le royaume, puis tu vois le royaume. OK? Mais dans cet exemple-là, Jésus dit, dans un exemple pour expliquer qu'est-ce qui se passe quand la vie d'une personne est née de nouveau, il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Si tu es né de l'esprit, c'est comme du vent, il s'est passé quelque chose dans sa vie, qui s'est passé que tu sais pas où ce qui vient, tu sais pas où ça en va, ce personnage-là, mais il dit en est la même chose que de la vie de quelqu'un qui est né de l'esprit. Le vent dans ce passage-là, c'est comme l'esprit. Puis le mot vent, dans le grec, c'est le mot pneumo, souffle. Quand tu souffles, là, c'est le souffle, c'est le vent, c'est le mot esprit, c'est le même mot. C'est le même mot grec. Le mot esprit, il vient du mot grec pneuma qui veut dire souffle. Fait quand il dit, je disais tantôt qu'il a fait de ses anges des vents, mais les anges, c'est des esprits. Fait que les anges sont des vents. Les anges, il a fait de ses anges des vents. Les esprits, c'est des vents. Fait que ça, c'était correct. Déjà dans leur matière, dans leur nature, ils ont été créés souffle, vent. C'est des esprits, les anges. Tandis que nous, les humains, nous pouvons devenir des flammes de feu. Nous pouvons recevoir aussi le vent de Dieu, qui est le souffle du Saint-Esprit. Une fois que quand tu reçois son vent, c'est son souffle, c'est son esprit. Quand que Dieu, au début de la création, il a pris la terre, la glaise, il a formé un corps, puis il a soufflé dans ses narines, puis le souffle rentrant en lui, puis il est devenu un âme vivante. Mais quand t'es né de nouveau, puis tu reçois le Saint-Esprit, il souffle en toi, puis tu deviens un esprit ressuscité, un être vivant spirituellement parlant. T'es rendu un être vivant par le souffle, par le vent qui est le Saint-Esprit. Job 32, verset 8, nous explique la même idée. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Sans le souffle du Tout-Puissant, on comprendra rien du vrai sens de la vie. Nous serions comme animal, puis on réagira uniquement d'une manière humaine, animale. Si on veut arriver à réagir et à vivre selon l'Esprit de Dieu, il faut que tu sois alimenté du souffle de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois alimenté du vent de Dieu. On voit dans ce passage-là que le Saint-Esprit, il est mentionné comme étant le souffle du Tout-Puissant.
Paul, il explique en même temps, il dit l'homme naît animal, puis...
Oui, il y a l'homme animal, l'homme naturel, puis il y a l'homme spirituel. Il y a une troisième catégorie d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel, puis il y a l'homme charnel. La troisième catégorie qui parle dans les Ézéchiel. L'homme animal, c'est quand il vient au monde. L'homme spirituel, c'est quand il naît de l'esprit. Et l'homme charnel, c'est quelqu'un qui est né de l'esprit, mais qui marche encore selon sa chair. C'est l'homme charnel. C'est ceux qui marchent selon la chair. Mais le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Un autre emblème, une autre manière que le Saint-Esprit est représenté, comme étant de l'huile.
Ah!
Ah oui, attendez une minute. On n'a pas parlé des propriétés du vin. Quels sont les avantages du vin? Si Saint-Esprit est comme du vin, il représente. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit qu'il est utile dans le vin? Que les bienfaits du vin?
Ça fait sécher les cheveux.
Ça fait sécher les cheveux. Mais il y a des choses plus utiles que celle-là.
Les cheveux, ça transporte la poussière, ça fait sécher les rivières aussi. Le linge, la corde de linge, toutes sortes de choses.
Oui.
Mais ça a d'autres propriétés aussi.
Fait tourner un moulin à vent pour pouvoir faire de l'énergie.
Une puissance et une énergie parce que ça fait avancer les bateaux, les voiles.
Les bateaux à voile. Oui. Fait qu'on voit que c'est une chose quand même invisible, c'est une matière qui est invisible. Ça représente aussi une force, ça l'œuvre d'une manière invisible, ça veut pas, parce qu'on le voit pas, le vent, mais on entend le bruit, on sait pas où il vient, on sait pas où est-ce que ça s'en va, mais on sait que ça fait quelque chose quand que ça passe.
Ça sert à pousser.
Oui, c'est une énergie.
Ça sert à arrêter aussi, parce que le vent, il arrête des choses.
Ça pousse les nuages, ça a un travail qu'on comprend pas à... Nous, on n'est pas des scientifiques, mais si on a un scientifique pourra nous sortir tous les avantages du vent, là... Mais quand même, c'est le fun de savoir que Jésus s'est servi des exemples de l'eau, du feu, du vin. Là, on va voir qu'il sert de l'huile.
Les lumières aussi, Les lumières aussi.
Oui. Mais ça revient au feu.
Un passeur, un esprit de lumière.
Oui. Isaïe 61:1. C'est une prophétie qui s'est accomplie à travers Jésus. Ça dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Là, il y a d'autres... Ça continue le verset, mais le point que je veux peser, c'est que « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, » car l'Éternel m'a oint. L'Éternel l'a oint. Oindre, c'est de verser de l'huile sur la tête. Fait que le Saint-Esprit est représenté comme une onction d'huile. Puis cette onction d'huile-là, elle a un sens spirituel. Là, Jésus, il voulait nous faire comprendre quelque chose là-dedans. On sert de ça, de cette huile d'onction-là, là, dans l'Ancien Testament, pour ordonner, comme dans le ministère... pour consacrer des ministères comme de roi, ils se faisaient oindre d'huile, les prophètes se faisaient oindre d'huile, puis il y avait les sacrificateurs qui se faisaient oindre d'huile, ils se faisaient verser de l'huile sur eux autres.
Samuel, je pense qu'il y avait oint David.
Oui.
Tous les rois étaient tous oints dans le pont.
Parce que... tous les rois recevaient l'onction pour être rois, des rois d'Israël qu'on parle, là, surtout là, les autres rois, les autres peuples.
Mais ça doit être autre chose, parce qu'à un moment donné, il parle des vierges, des sages, des
pauvres.
Mais ça, c'est dans leur lampe. Il y avait de l'huile dans leur lampe.
Spirituellement
aussi, oui. Parce que l'huile a les propriétés d'alimenter une mèche pour que ça puisse brûler d'une lampe à l'huile. Fait que c'est l'énergie encore, c'est le carburant pour développer une énergie, pour propulser l'énergie. C'est le feu, mais c'est l'huile en même temps qui va enflammer. Mais dans le sens, premier sens que je veux peser, c'est que l'huile qu'il recevait sur la tête, ça l'amenait une consécration à un ministère. De roi, de prophète ou de sacrificateur. Jésus l'a reçu, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Car l'Éternel m'a oint. Quand l'Éternel l'a oint, mais là, l'Esprit du Seigneur était sur lui pour accomplir un ministère spécifique. Mais là, dans son cas, Jésus n'a accompli plus qu'un. Les rois, les prophètes, les sacrificateurs étaient oints pour leur ministère. Mais ici, Jésus dit, son ministère à lui qui a reçu, c'est un ministère de prêcher la bonne nouvelle, un ministère de prédicateur. Ça prend une onction pour avoir un ministère de prédicateur. Ça prend une onction pour avoir un ministère de guérisseur. Parce qu'il est envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, puis guérir le corps. Jésus guérissait l'âme, puis guérissait le corps.
Oui.
Fait qu'il y avait une onction de guérison pour guérir les corps, guérir les âmes. Puis il y avait une onction aussi pour proclamer aux captifs la liberté. Il y avait une onction pour libérer. Une onction pour délivrer les gens qui étaient sous la puissance des liens de Satan.
Il dit pour publier aussi une année de grâce.
Oui, ça c'est encore la prédication que, en réalité, c'est pas le mot année qui est là dans l'hébreu, dans le texte, c'est une période. Ça aurait dû être le mot période. C'est parce que c'est une mauvaise traduction d'avoir traduit par année. C'était pas le vrai mot année. C'est Louis II qui a traduit ça par année, mais c'est période qui serait le vrai sens. C'est une période de grâce parce qu'elle a duré bien plus qu'un an. Ça fait 2000 ans qu'elle est là, cette période-là. Mais on voit que le Saint-Esprit il était donné comme une huile dans ce passage-là. Puis dans 1 Jean 2, 27.
Mais l'huile a une autre fonction aussi. C'est que ceux qui avaient des poux, puis tout dans le temps, là, si tu mets de l'huile, les poux, ils ne vivent pas dans l'huile.
Non.
Ils ne vivent pas dans l'huile.
Ils sont comme noyés. Tu vas dans la piscine aussi, ça fait une affaire, reste dans l'eau un bon bout.
Tu vois que ce qui existe matériellement existe spirituellement aussi.
Oui, c'est ça, il sert d'exemple physique pour démontrer le Saint-Esprit. Puis là, c'est dans ces exemples physiques-là, on retrouve beaucoup de propriétés qui nous font penser à tous les avantages que le Saint-Esprit pourra avoir.
Même plus si on ne l'avait pas,
on serait
sans intelligence.
Sans intelligence, comme qu'on a vu dans le passage.
Pas grand chacun nos petites affaires, puis on ne chercherait pas Dieu, puis on ne louerait pas, puis on ne le remercierait pas, puis on ferait rien.
On ne le connaîtrait pas. On se leverait pour aller travailler, manger, dormir, coller, se coucher.
Comme des animaux.
On ferait juste un cycle de vie comme un animal. 1 Jean 2, 27, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. Pour vous, l'onction que vous avez reçue... Ah, là, ça parle que les chrétiens ont reçu l'onction. Les chrétiens ont reçu aussi cette huile. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Puis le Saint-Esprit nous enseigne, nous donne de comprendre les vraies affaires. Mais le Saint-Esprit, dans la structure de l'Église, a quand même donné des ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Nous, autant que l'onction nous aide à catcher les idées, mais Dieu, quand l'onction, le Saint-Esprit, a quand même moins des personnes pour donner plus d'explications, qui fait que tout le monde se solidifie.
Parce que c'est pas tout le monde qui peut être docteur, c'est pas non. Tout le monde qui peut être pasteur non plus.
C'est ça. C'est pour ça que c'est des...
Ensuite, ils ont institué des diacres parce qu'ils n'avaient besoin,
oui.
Qu'il y avait trop de monde. Mais c'est sous l'influence du Saint-Esprit qu'ils ont fait ça.
Oui, c'est le Saint-Esprit qui amène tout cela. Mais chacun est important dans l'Église. C'est pas parce qu'on n'est pas un prédicateur qu'on n'est pas important. Même si tu n'es pas un prédicateur, tu as reçu une onction. Puis cette onction-là t'emmène à grandir dans le Seigneur, mais elle va t'utiliser, cette onction-là, pour des tâches qu'un autre fera pas. C'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il faut rentrer dans les œuvres que Dieu place devant nous. Mais ce qui est hot, c'est que nous avons reçu aussi l'onction. Il faut pas l'oublier. Tout le monde l'a reçu quand tu es né de nouveau. C'est le Saint-Esprit. Une autre manière qu'on nous est représenté le Saint-Esprit, une colombe.
Oui.
Matthieu 3, 16.
Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur.
Oui.
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, puis c'est toi qui viens à moi.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, puis il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le Saint-Esprit représenté, c'est Dieu qui a voulu que ce soit une colombe. Il aurait pu prendre une corneille, il aurait pu prendre un aigle, il aurait pu prendre n'importe quelle sorte.
Oui, quand il est sorti du bateau, il avait envoyé une colombe aussi.
Oui, mais les colombes, c'était des animaux purs, tandis que c'est pas tous les oiseaux qui sont considérés des oiseaux purs. Dans l'Ancien Testament, c'était considéré pur. Puis, c'est un symbole de pureté. C'est beau, c'est blanc, parce qu'une colombe, c'est blanc. Un pigeon, il y a des couleurs, mais une colombe, c'est blanc. Mais on voit là-dedans que la beauté d'une colombe, on voit la pureté d'une colombe, on voit la simplicité comme une colombe. Pourquoi que je dis ça? Parce que Jésus a pris ce passage-là dans un autre passage, dans Matthieu 10, 16. Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » D'après moi, une colombe ne se pose pas dans un endroit trouble. Si, mettons, on fait bien du bruit avec des branches, là, on tape, puis on fait bien. La colombe, là, ne sera pas attirée à venir nous voir. Puis ça prend pour t'approcher, il faut que tu sois dans le calme, Jésus, il avait un sens spirituel qu'il voulait nous apporter quand il nous dit d'être simple comme une colombe. Une colombe, autant que c'est la beauté, puis ça dégage un symbole de pureté.
Ça dégage la paix aussi, parce que
c'est... Mais c'est la paix qui voulait nous...
Quand il y a un aigle à la place d'une colombe, l'aigle, lui, il va arriver les serres ouvertes.
Ouais.
Tandis qu'une colombe, elle va arriver, puis elle va se poser doucement sur toi.
Ouais.
L'aigle, lui, il va t'enfoncer les serres.
Oui. Puis pour nous, comme caractère, qu'est-ce que ça nous appelle à devenir simple comme une colombe? Premièrement, ça apporte la paix. Faut que tu sois toi-même dans la paix pour pouvoir que la colombe te pose sur toi. Si t'es en train de courir, t'es agité, tu vas y faire peur. Mais si elle t'est en paix, elle repose sur toi, puis ça calme, on dirait ça calme. Mais on devrait être comme ça. On devrait être des gens qui cherchent à être calme, puis qui cherchent à apporter le calme. Puis c'est de même qu'on se trouve à porter le calme du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est représenté comme une colombe lorsque Jésus descend, puis il nous dit à nous aussi, soyez simples comme des colombes.
C'est pas pour rien qu'il dit que le message qu'on envoie, c'est un message de paix.
Oui.
Parce qu'il dit, vivez en paix, ne soyez en guerre avec personne, en autant que ça dépend de vous.
Mais oui.
On voit que c'est un message de paix parce que c'est pour amener tout le monde à la paix.
Oui. Il dit, comme la chanson de Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Bon. Mais ça, c'est pas écrit dans la Bible comme tel, chant-là, mais ça vient de paroles inspirées de la Bible.
Oui.
Dieu nous en a laissé sa paix. Ça vient du Saint-Esprit. Quand tu te convertis, sa paix s'installe. Puis il veut que tu sois un ouvrier de paix. Exactement. Quelqu'un qui travaille. Autant que ça dépend de nous, faut être en paix avec tous les hommes. On ne cherche pas à chicaner. C'est ça. Parce que ça fait partie de la règle de l'amour.
C'est pas pour rien qu'il disait ça, même dans l'Ancien Testament, quand Joseph avait dit à ses filles, il avait retourné. Il dit, vous en allez chercher mon père, puis il dit, ne vous querelez point en chemin. Parce que c'est ça, le Saint-Esprit nous apprend à vivre dans la paix, à ne pas se quereller, à ne pas avoir de convoitise. Parce que si tu convoites, c'est pas pour rien que Dieu, dans ses commandements, il a mis « ne pas convoiter ». Si tu convoites, tu vas vouloir faire la guerre pour avoir qu'est-ce que c'est que l'autre.
Oh. Ben oui, ben oui, c'est un des 10 commandements qui nous dit pas.
Dieu veut qu'on vive en paix.
Oui.
Contente-toi de qu'est-ce que tu as.
Puis dans Jacques, il dit « où sont vos luttes puis vos querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui vous attirent, qui vous animent? » Il dit « vous convoitez puis vous ne possédez pas ». Puis vous êtes des meurtriers, puis des envieux, puis,
ouais.
Puis il dit, puis aussi vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas, ou vous demandez mal. Parce qu'il y a plusieurs choses qui font que le trouble vient dans l'Église parce qu'on marche selon nos convoitises, puis où on marche dans la jalousie de l'autre qu'il y a quelque chose puis tu ne l'as pas. Nous, on s'en rend moins compte parce qu'on a quand même, presque tout le monde a tout ce qu'il faut. Mais dans les pays pauvres, ça devait être des situations qui ont dû à vivre, comme dans Jacques, puis que la chicane pognait,
oui.
Parce qu'il y en a qui ont de quoi, puis là, il n'y a rien, puis ça crée des conflits.
Qui ont des maisons, des anneaux d'or, ils ont des, mettons, des gros cheptels, puis d'autres, il y a un petit cheptel.
C'est encore, ils l'ont. Il y en a qui n'avaient rien dans ce temps-là.
Il y en a qui n'avaient rien, en plus.
Un autre exemple.
Esclaves, c'est ça?
Ben oui, il y en a qui étaient esclaves, chrétiens, puis ils étaient esclaves. Une autre affaire que j'ai ressorti c'est pas écrit comme tel, mais le Saint-Esprit, quand on parle de la colombe, moi, ça me donnait comme c'est la liberté. La colombe part à voler, c'est un oiseau, ça symbolise la liberté. Puis je comparerais ça au passage de la parole dans 2 Corinthiens 3, 17 qui nous dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ça ne dit pas réellement que la colombe est représentée par la liberté, mais c'est quand même un symbole qui est représentatif de liberté. Même s'ils sont gardés en cage, tu vois qu'ils lâchent lousse, ils n'ont pas peur, puis ils reviennent tout le temps. Ils sont libres de partir, ils sont libres de revenir, puis ils reviennent tout le temps. Ils reviennent où ils ont été nourris. Un dernier point que je vais vous parler comme un emblème, comme un symbole, quelque chose qui représente le Saint-Esprit, un sceau.
Ouais, le sceau du Saint-Esprit.
Ouais, Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que ça veut dire, scellé par un sceau?
Scellé, mais tu peux le prendre de deux façons. Ça veut dire c'est une marque ou c'est comme enveloppé puis comme attaché. Ça veut dire c'est scellé. C'est une enveloppe scellée, ça veut dire que tu ne peux pas l'ouvrir sans arracher le sceau.
Oui. Mais le sceau scellé, dans la langue grecque de celui-là, c'est comme un étampe de comme quoi qu'on appartient au Seigneur. C'est un signe d'appartenance.
Oui.
C'est une garantie sur la chose. C'est un acompte, un gage de notre héritage. C'est un acompte. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu reçois en attendant, je te donne ça, là, tac, c'est un étampe. Tu as cet étampe-là sur toi. En attendant, je te donne le reste. C'est un gage, c'est un acompte en attendant que je te donne le reste. Dieu nous a donné le Saint-Esprit en attendant comme acompte de ce qui nous attend dans le ciel. Si on n'a pas ce saut-là, on n'a pas de signe d'appartenance, c'est juste après avoir cru qu'on était scellé du Saint-Esprit. C'est qu'il y a des gens qui le savent que Jésus est venu, mais ils n'ont pas décidé de s'engager à suivre Jésus. Fait que tant qu'il n'y a pas de repentance, ils n'ont pas de réelle foi. Pour que tu aies une foi qui est en action, faut que tu réalises que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Puis quand tu le réalises que c'est lui qui est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis que tu l'acceptes, parce qu'il t'appelle, il veut qu'on aille à lui, il faut l'accepter comme notre sauveur, comme notre Seigneur. Il faut que tu te confesses de ta bouche avec repentance, parce que tu n'as pas le désir de changer de vie. Tu commences même pas le chemin. Faut que tu veuilles le suivre. Mais quand tu t'engages à le suivre, à le servir, il te pardonne tous tes péchés, puis il te donne le sceau du Saint-Esprit, un étendre dans le front comme quoi que tu appartiens au Seigneur. Propriété privée de Dieu. Ne touchez pas à mes oints, que Dieu dit dans un de ses passages. C'est une onction qu'on a reçue. On a reçu l'eau en nous. On a le feu sur nous. On a été rempli du vent, du souffle de l'Esprit de Dieu. On a reçu l'huile de l'onction. On est devenu semblable à des colombes. Puis on a reçu son sceau qui est le gage de l'héritage qu'on a, la vie éternelle.
Merci.
C'est-tu beau?
Il est super beau.
On va faire une prière.
On a-tu honte d'être rendu là?
Oui.
Merci Seigneur.
Père et Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus, que je te remercie pour les belles choses qu'on a vues ce soir, les beaux versets qui nous parlent du Saint-Esprit. Ça nous fait du bien de voir toutes ces belles choses-là. Seigneur, garde-nous dans la foi. Autant qu'on a reçu ces choses par la foi, garde-nous dans la foi afin qu'on se détourne pas de tout ce que tu nous révèles, Seigneur. Puis qu'on trouve une excitation, une joie dans toutes ces révélations-là, parce que c'est un trésor. C'est un coffre à trésors qu'on rouvre, puis chaque révélation est comme des perles, puis c'est notre richesse de te connaître, puis d'avoir l'intelligence de te connaître qui est inspirée par le souffle du Tout-Puissant, par le Saint-Esprit. Merci de ce que tu fais dans nous, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.